Nous déclarons cette rencontre sur la démocratie de la place publique, mouvement de Maïdan. Maïdan étant, comme vous savez, un mot d'origine perse qui signifie la place publique et c'est un mot qui a été réutilisé dans beaucoup d'espaces culturels. Donc, évidemment, Maïdan de Kiev incarne beaucoup ce que sont les Maïdan, mais il y a d'autres Maïdan, en particulier en Turquie, bien entendu, et dans tout le monde arabe. Alors voilà, je déclare donc cette conférence ouverte en donnant la parole au président de HESS, Pierre-Cyril Auqueur, pour quelques mots de bienvenue.
Merci beaucoup Yves. Merci aux organisateurs de cette rencontre et puis merci à tous ceux qui sont venus. Je suis heureux de vous accueillir à l'École des hautes études en sciences sociales pour cette conférence d'un type un peu spécial, si je comprends bien, par ses participants, comme également par le moment où elle a lieu. Peut-être un mot sur le moment d'abord. Vous êtes tous parisiens, français, étrangers, comme nous, sous le choc encore des événements qui ont eu lieu à la fin de la semaine dernière. Et ces événements sont un signe supplémentaire du besoin que nous avons de comprendre les transformations sociales et politiques profondes qui affectent nos sociétés et qui affectent en particulier nos régimes démocratiques. Je passe matin et soir place de la République et depuis la fin de la semaine dernière, la place de la République s'est constituée en un espace politique particulier, sous des formes sans doute à la fois différentes et proches de celles que vous étudiez, avec la conjonction de la présence d'artistes qui viennent s'exprimer sur la place, selon des formes très variées, la présence autour de la statue centrale d'une espèce d'immense reposoir de fleurs, de lettres, de documents, d'objets multiples, et autour de dizaines de camions des médias du monde entier avec leurs antennes paraboliques tournées vers le ciel et qui retransmettent en permanence, de la même manière qu'on l'a vu à d'autres endroits, ce qui se passe à ce moment-là, à cet endroit. Et manifestement, ça n'est pas seulement un moment de mémoire. Il y a là la mémoire de ce qui s'est passé en janvier. Il y a là la proximité d'un certain nombre de lieux d'attentats, aussi bien en janvier que les attentats de vendredi dernier. Il y a évidemment le symbole de la République. Il y a le symbole de toutes les manifestations de la tradition sociale française dans lesquelles la place de la République est un point central. Il y a donc toute une épaisseur de symboles et de l'action politique en marche telle qu'elle a existé et qu'elle existe en France encore aujourd'hui. Et je trouve que en passant là, ce matin, je pensais à votre colloque et je me disais que dans chacun des cas que vous examinez, il y a eu sans doute quelque chose de similaire, avec évidemment des modalités chaque fois un peu spécifiques. On n'est pas ici dans un cas de manifestation d'opposition par rapport au régime, mais on est aussi dans un cas de manifestation des limites des formes politiques installées en France, et je crois que votre travail permet à la fois de réfléchir sur les modalités de l'opposition démocratique, les nouvelles formes de l'opposition démocratique dans des régimes peu ou pas démocratiques, et aussi à la forme de réinvention du politique dans les sociétés plus ou moins démocratiques. Ce sont des moments qui se caractérisent, ce sont des lieux et des moments qui se caractérisent non seulement par l'effort de compréhension pour lequel j'espère que le monde savant un rôle, mais aussi par la place extrêmement forte des émotions, des sentiments que chacun apporte et qui se transforment dans le moment même de ces manifestations. Donc dans ces moments particuliers que nous vivons, mais peut-être tous sont-ils particuliers, il est particulièrement important, je crois, pour nous que cette manifestation ait lieu ici, qui permette d'essayer de à la fois comprendre et prendre part à ces manifestations des places publiques. L'école des hautes études en sciences sociales est, je crois, depuis son origine, un lieu dans lequel les chercheurs ne sont pas seulement des chercheurs, ne sont pas, n'ont pas comme seul horizon le monde académique, et souvent même n'ont pas comme principal horizon le monde académique, mais cherchent à comprendre pleinement le monde social et le monde politique pour s'y engager, pas seulement faire de l'observation participante, mais presque en sens inverse, mettre leur savoir au service de l'action politique sans être pour autant nécessairement partisan ou nécessairement dans l'action politique à titre principal. L'interaction entre les acteurs des mouvements sociaux et politiques et le monde académique est une interaction qui est toujours difficile. Il y a évidemment des acteurs sociaux qui ont une capacité réflexive, critique, d'analyse de leur propre action qui est plus forte que dans d'autres cas. Et il me semble clair que dans le cas des mouvements que vous étudiez, vous êtes, pour ceux d'entre vous qui sont là comme participants à ces mouvements, avant d'y être comme analystes de ces mouvements, vous êtes particulièrement informés et en état de comprendre les phénomènes auxquels vous participez. Ça n'est pas toujours le cas des mouvements sociaux. Mais c'est fréquemment le cas. Nous avons eu quelque chose de similaire il y a quelques jours où nous avions organisé dans, dans ce même amphithéâtre une réunion avec des réfugiés parmi ces centaines de milliers de réfugiés qui quittent le Proche-Orient et l'Afrique depuis de longs mois déjà. Un certain nombre étaient venus pour parler avec les chercheurs et nous avaient dit que qu'ils étaient en quête de ces moments où ils pouvaient non seulement s'exprimer sur le mode de l'émotion ou de la réaction à chaud que les médias leur proposent, mais aussi sur un mode plus distancié, plus critique, plus analytique, dans un débat avec le monde universitaire. Et l'organisation de ce colloque montre que, cette fois, c'est sur une durée longue, d'abord par la préparation et ensuite, j'imagine, par les conséquences aussi, mais aussi par la durée longue du colloque lui-même, que cette rencontre a lieu. C'est une rencontre qui est éminemment nécessaire pour nous, les acteurs du monde académique, parce que le monde social ne se comprend pas de l'extérieur comme le monde physique. Toutes les politiques de la science qui prétendent nous dire que la norme du travail scientifique, c'est la physique ou la biologie, dans lesquelles les chercheurs ont un regard extérieur sur leurs objets, c'est évidemment, cette norme ne peut pas s'imposer aux sciences sociales. Et nos sciences humaines et sociales souffrent de l'imposition de cette norme. Et nous devons lutter en permanence pour nous réapproprier ce qui nous est particulier, qui est que nous faisons partie du monde social que nous analysons et que nos objets d'étude ne sont pas des objets, ce sont des personnes, ce sont des personnes dont la compréhension du monde nous est aussi nécessaire pour faire notre travail que la nôtre peut l'être, nous l'espérons du moins, pour eux. Donc je crois que ce type de rencontre est extrêmement important pour le travail des sciences sociales. J'espère qu'il sera aussi important pour toutes et toutes dont l'objectif n'est pas seulement le travail social. Je me félicite donc de la réalisation de ce colloque. Je félicite les organisateurs. Je vous souhaite des échanges fructueux et je vous souhaite surtout de réussir à parler un langage commun. C'est un exercice qui n'est jamais complètement évident. Quand j'accueille les étudiants de l'EHESS en début d'année, je les engage à chacun chercher à tirer profit de la diversité de leur parcours. La moitié de nos étudiants sont étrangers. Un certain nombre ont eu une activité professionnelle qui leur donne une familiarité avec certains pans du monde social que n'ont pas ceux qui sont des étudiants tout juste sortis de leurs études initiales. Cette diversité, c'est ça qui permet de faire un travail de recherche et de comprendre réellement les transformations sociales. Et je crois que les gens que vous êtes réunis aujourd'hui, vous êtes en mesure de faire ça, de faire progresser notre compréhension de la société, des transformations du politique qui ont lieu en ce moment. Et donc, je vous engage à le faire et à le mener à bien. Merci à tous et je vous souhaite un très bon colloque.
Merci beaucoup, Pierre-Cyril, de ces mots. Je passe la parole à Richard Reitzmann, qui est directeur d'études à l'École des hautes études, qui est médecin et qui s'occupe depuis très très longtemps de réfléchir et d'avoir une pratique sur les victimes. Et donc il est à la peine en ce moment, comme la société est à la peine. Et il est directeur d'un grand programme, un LABEX, un laboratoire d'excellence, qui est EPSIS, qui a joué un rôle extrêmement important dans la mise en place, non seulement de cette conférence, mais de ce programme dont on parlera à l'instant, d'un programme plus vaste de recherche sur la place publique. Donc, un de nos grands parrains comme l'École des hautes études.
Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup, Nénuphar. Merci, Nadia, de m'avoir invité à dire quelques mots en ouverture de ces journées qui vont être, j'en suis convaincu, qu'à la vue du programme, passionnantes en tout point. Je suis très content de pouvoir dire quelques mots, d'abord au nom du LABEX d'EPSIS, puis, si le temps me l'est permis, quelques mots plus personnels par rapport à la journée d'aujourd'hui. Sur EPSIS, vous savez, c'est un laboratoire d'excellence. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un laboratoire d'excellence. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas très grave. C'est une vaste entreprise aux mains des chercheurs destinés à faire qu'ils puissent faire la recherche comme ils ont envie de la faire. Alors c'est peut-être pas exactement la définition que tout le monde donne d'un LABEX, mais c'est la définition que nous nous sommes donnés et que nous tenons à maintenir et qui nous offre la possibilité effectivement de financer un certain nombre de choses nouvelles, dont tout particulièrement cette entreprise, cet atelier de travail animé par Nénuphar, Yves et Nadia sur les nouvelle reconfiguration de l'espace public et des places publiques. Alors EPSIS a pour cœur d'action toutes les formes contemporaines et passées du politique au sens le plus large. Ça réunit des historiens, des politistes, des anthropologues, des sociologues. J'en oublie certains. Je crois même qu'il y a un psychiatre, mais je tairai son nom dans cette bande. Et l'idée de EPSIS, c'est à la fois de produire de la recherche, de la diffuser assez rapidement et d'être en interaction avec l'espace social. Alors vous comprendrez pourquoi, effectivement, le programme animé par Nénuphar est à ce titre-là extrêmement intéressant pour EPSIS, puisqu'il a réuni ces trois dimensions. La première dimension, la thématique, le fond. Les formes émergentes du politique et s'interroger sur ce qui se passe sur la place publique et de lui donner justement une signification politique et pas simplement celle d'une mobilisation spontanée ici ou ailleurs, j'en dirai quelques mots par la suite, est vraiment quelque chose pour nous essentiel et qui rentre dans le cœur de Tepsis. La forme également. La forme, puisqu'ils ont choisi, vous trois, vous avez choisi de le placer dans ce que s'appelle les ateliers de Tepsis. Alors, c'est quoi les ateliers de Tepsis? Ce sont des formes très souples, mais dans laquelle il doit y avoir de la recherche, des séminaires, des colloques, une participation d'étudiants, une participation de chercheurs du LABEX, mais aussi une participation de chercheurs extérieurs, avec, pour finalité, c'est le troisième point, des résultats tangibles. Nous sommes attendus sur les résultats et nous revendiquons clairement en tant que chercheurs qu'il est possible d'avoir des résultats. L'adage selon lequel les chercheurs qui trouvent, on n'en trouve pas, ou je ne sais trop quoi, il est révolu. On ne trouve pas nécessairement les résultats qui sont attendus que les chercheurs trouvent. Mais on trouve les résultats que nous autres chercheurs devons avoir, et à savoir, notamment dans ce cas-là, avoir une action dans la communauté scientifique, et c'est ce que nous faisons, ce que vous faites aujourd'hui, avoir une action au-delà de la communauté scientifique, c'est-à-dire auprès de la population générale, et d'avoir une action sur l'objet même sur lequel on travaille. Et là, dans ce cas-là, et c'est pour ça que je disais qu'il nous était pour nous, votre programme rentrait directement dans Tepsis, avoir une action sur la place publique elle-même, sur l'objet sur lequel vous travaillez, et sur lequel il va y avoir en retour un effet des productions de savoir. Alors, si je peux dire quelques mots, justement, sur l'innovation, à mon sens, qui est porté par ce programme et cette réflexion autour de la place publique, ce serait pour dire que si ces études sont aujourd'hui essentielles, c'est parce qu'elles permettent de saisir très précisément la façon dont le politique, à l'échelle globale, telle qu'on a l'habitude de penser le politique, s'incarne dans le local, dans le collectif, voire dans le singulier. Alors ça, c'est quelque chose dont on n'avait pas l'habitude, dans le travail, dans les recherches antérieures, d'avoir tout ce lien qu'il y a entre l'idée globale du politique et son incarnation, parce que le politique, c'est une chose, mais ça s'incarne quand même dans des actions collectives, dans des individus, on pourrait même aller jusqu'à dire dans des subjectivités. Alors, il y a là un effet d'image et de distance qui permet systématiquement et régulièrement de passer du macroscopique au microscopique. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très original, puisque jusque-lors, on avait un peu l'habitude de scinder ces deux approches, le macroscopique d'un côté et le local ou microscopique de l'autre. Et il y a là une tentative de les réunir que je trouve extrêmement riche, puisque ça apporte des nouveaux terrains, des nouveaux enjeux et des nouvelles approches. Alors j'imagine, et vous pourrez le dire à juste titre, que à chaque fois qu'un chercheur prend la parole, il est en train de dire que c'est nouveau, il y a des nouveaux terrains, des nouvelles approches, comme si le mot « nouveau » était le mot le plus essentiel. Il ne suffit pas de dire que c'est nouveau, il faut le prouver. Il est vrai qu'on connaît un certain nombre de chercheurs qui considèrent que ces mobilisations publiques, finalement, il n'y a rien de neuf sous le ciel. Ça fait des années qu'il y en a, ça fait des années qu'on en voit, et tout est toujours pareil. Il me semble que justement non. Il me semble qu'il y a une véritable différence par rapport à ce qui a pu être analysé ou observé auparavant. Dans ces nouvelles formes d'expression, par rapport à ce qu'on a pu décrire ou voir dans les années 70-80, car ce qui est aujourd'hui nouveau, c'est l'influence que ça a à la fois sur l'espace public, sur les politiques en général, mais on va le voir aussi sur les contre-réactions. Ce sera sur ma conclusion, on ne peut pas aujourd'hui ouvrir un colloque ou fermer un colloque sans parler de ce qui s'est passé vendredi dernier. J'en dirai quelques mots et je me semble qu'il y a bien là quelque chose d'important à la condition de forger de nouveaux outils. Parce que s'il y a une chose qui est évidente, c'est que si on a l'impression que les mobilisations d'aujourd'hui sont les mêmes que celles d'il y a 20, 30 ou 40 ans, c'est peut-être parce qu'on les regarde avec les mêmes outils que ceux qui avaient permis de penser les choses il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Et ça pose véritablement la question, si l'on veut voir des choses qui émergent aujourd'hui, alors il faut non seulement les observer, mais il faut aussi se doter de l'outillage conceptuel qui permet d'en rendre compte. Les outillages conceptuels précédents permettent de rendre compte de ce qui était avant. Et ce n'est pas étonnant quand ils nous disent « ben finalement, c'est la même chose ». C'est la même chose parce que vous l'avez regardé et pensé de la même manière. Donc il y a là une nécessité conjointe d'observer les choses différemment et de les penser différemment, et donc d'inventer les concepts qui vont permettre d'en rendre compte. Alors, L'enjeu est essentiel, parce que, comme je vous le disais, si on invente de nouveaux concepts, ce que vous êtes en train de faire, me semble-t-il, alors on va peut-être pouvoir comprendre ce que j'essayais de dire tout à l'heure et qui va quand même, qui est très difficile à saisir, c'est comment le global s'incarne véritablement dans le local, dans le singulier, dans un effet d'aller-retour permanent qui permet de saisir ces émergences nouvelles, l'effet que ça a, le fait que, par exemple, dans certaines manifestations, il n'y ait pas de la nécessité d'avoir de hiérarchie, de chef ou autre, comment on va pouvoir le penser, comment l'éphémère va être quelque chose qui va être, pardonnez-moi ce paradoxe, qui va être quelque chose de durable, un éphémère qui a pour fonction de durer indépendamment des gens qui le composent. Il me semble que ces outils sont aussi ceux qui vont nous permettre d'analyser, alors là, je me lance à la discussion, un peu ce qui s'est passé vendredi dernier. Parce qu'il me semble que ce qui s'est passé vendredi dernier à Paris est aussi un effet du global. Un effet du global sur quelque chose que depuis vendredi, j'essaye de penser avec plein d'autres, une sorte de déterritorialisation génocidaire. Parce qu'il me semble que ces hommes qui ont abattu comme ça 120 personnes, entre parenthèses, entre guillemets, au hasard, ne sont pas ce qu'on essaie de nous présenter comme des démons radicalisés, ni des pauvres démunis qui se seraient secondairement radicalisés, selon les tendances, mais ce sont pour moi bien plus des génocidaires. C'est vrai que j'ai beaucoup moins d'effets de surprise à les entendre, à les voir, à les comprendre, que je les compare non pas à ceux qui n'ont pas grand-chose à voir avec eux, mais que l'on suppose être identiques, qui viendraient de banlieues proches de Paris. En revanche, si je le mets à les comparer à ce que je connais des bourreaux Khmer rouges, je peux vous garantir que j'ai beaucoup moins d'effets de surprise. Si je me mets à les comparer à des génocidaires ou tout, j'ai beaucoup moins d'effets de surprise. Si je me mets à les comparer à des soldats nazis, j'ai beaucoup moins d'effets de surprise par rapport à la façon dont ils choisissent leurs victimes, sélectionnent ceux qui vont mourir et abattent ceux qu'ils ont décidé d'abattre. Car un point est important, et vous le lirez sans doute, vous le verrez dans le tract qui l'État islamique a produit. Il n'a pas parlé de cible au hasard. Il n'a pas parlé de tuer des innocents pour toucher la population. Dans leur esprit, les gens qui ont été tués n'étaient pas des innocents. Ce sont des coupables. Ils sont des coupables d'être ce qu'ils sont. Et qui sont précisément la terminologie que tous les génocidaires utilisent. Je peux tuer un tel, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est supposé être du point de vue que j'adopte moi. Et son identité relève de quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec la mienne. Il me semble que là, on a effectivement quelque chose de neuf, considérablement neuf. C'est que jusqu'à présent, le génocidaire était délimité par un territoire. Les gens tuaient, massacraient au sein d'un territoire et purifiaient au sein d'un territoire, et pas au-delà. Il me semble qu'un des effets du global, c'est aussi l'absence de ces frontières territoriales qui fait que le génocidaire peut s'autoriser une déterritorialisation de sa purification. Il me semble que nous sommes en train d'assister à quelque chose de cet ordre-là, dans la mise à mort qui est exhibée, alors avec plein de différences, parce qu'il est vrai que généralement le génocidaire n'expose pas avec une telle crudité la mise à mort, mais on peut imaginer des modifications, mais qui vient la viser précisément des formes émergentes du politique, et c'est pas un hasard si là où ça s'est produit, ce sont justement sur ces formes émergentes du politique et sur des individus qui composent ceux que vous appelez être les individus qui sont sur la place publique et qui mobilisent la place publique. Et ce que je trouve de particulièrement fascinant, c'est qu'à la fois la cible, la coupable d'être ce qu'elle est, d'être justement une force politique contemporaine, est aussi le lieu où émerge déjà la résistance, comme le rappelait très justement Pierre Cyril, puisque c'est précisément sur cette place publique et en se réappropriant cette place publique qu'une possibilité de résistance et de contestation apparaît là aussi. Donc vous comprenez pourquoi je trouve que véritablement ce que vous amenez aujourd'hui est essentiel pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.
Merci Richard, et je te remercie de cette forte contribution à la pensée, justement, à cette pensée instantanée sur laquelle on va réfléchir maintenant. Donc je suis très très ému de ça. Et je passe la parole à Niloufer, qui est à l'origine de tout, hein, de toutes ces manifestations, pas seulement du colloque, mais du programme dans lequel il s'insère. Et que Richard.
Je vous remercie. Je vais aussi enchaîner un peu parce que c'est tellement stimulant vos interventions. Vous avez déjà commencé à réfléchir, donc je vais essayer aussi un peu à l'improviste de me situer par rapport à ce que vous avez dit. D'abord, je vous remercie et je remercie aussi à ceux qui sont venus, qu'on n'a pas annulé notre programme. Et l'important, c'est justement le thème même de notre programme est très lié avec ces attentats meurtriers. Et vous l'avez très, très bien montré. Et je pense que c'est le lien qu'il faut le faire déjà, qui nous montre qu'est-ce qu'on apprend de ça. Nos démocraties aujourd'hui sont mises à l'épreuve dans l'espace public. C'est dans l'espace public que les démocraties aujourd'hui sont mises à l'épreuve, à la fois... Donc c'est l'espace public et le lieu de cette vulnérabilité de ces démocraties, à la fois la force. Donc pourquoi vulnérabilité? C'est justement ce que tu venais de dire par rapport au génocidaire, la déterritorialisation de cet espace public, c'est-à-dire les effets du global qui n'est plus maintenu dans une communauté de l'État-nation, même dans une communauté linguistique et homogène, mais qui échappe. C'est déjà... un peu un effet de globalisation, pour le bien ou pour le mal. Là, dans le cas des actes meurtriers, effectivement, c'est dans le sens très mal, mais dans la résistance, comme Pierre Cyril l'a très bien décrit pour la place République, depuis le 7 janvier, mais surtout maintenant, avec cette intensité, comment les citoyens s'approprient cet espace public. Donc, pour revenir déjà au criminels ou génocidaires, comme tu le dis, ils choisissent leur cible, ils choisissent les lieux publics. Ce qui fait, le rayonnement même de la civilisation européenne, pour nous, c'est cette liberté dans l'espace public. Et qu'on prend ça un peu comme si ça allait de soi. Et aujourd'hui, on voit cette fragilité de cet espace public. Et j'ai employé le terme un peu... parfois dérangeant de la civilisation, en sachant effectivement que c'est troublant, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas peut-être des conflits de civilisation, mais il s'agit d'un groupe contre un mode de civilisation. Il y a une prise de position contre un mode de vie, contre cette manière de vivre dans la vie publique. Les lieux publics sont tous très quand même choisis avec conscience, donc les lieux de rassemblement des citoyens sur les terrasses de café, cette liberté de se rencontrer entre hommes et femmes, le lieu de loisirs, le concert, le sport et avant le musée, le synagogue, donc tous les lieux où les citoyens ordinaires ont la liberté de vivre au quotidien. Et je pense que c'est ça qui faisait partie de cette démocratie des sociétés européennes. Donc il y a une haine, peut-être, je ne sais pas, mais il y a ce cible de ces gens-là qui ne peuvent pas s'expliquer juste par des, disons, raisonnements sociologiques. Il faut même se désociologiser en disant, parce qu'ils sont dans le désespoir, dans les conditions sociales, économiques, l'échec scolaire, etc. Au contraire, souvent, d'ailleurs, ils ressemblent beaucoup à leurs victimes, depuis le 11 septembre, d'ailleurs. Donc, effectivement, c'est des questions... à s'interroger, mais cet effet mimétique, je dirais, parce que même on voit dans le cas de Paris, les gens qui étaient des criminels génocidaires, ils auraient pu choisir de vivre aussi dans ces lieux. Donc qu'est-ce qui fait qu'ils tournent contre ça? Ce sont des gens qui connaissent ce mode de vie, ces lieux. Donc ce caractère public même de la violence, c'est aussi au cœur de notre sujet. Parce que les génocides avant cachaient leur génocide, tandis que là, au contraire, on veut justement mettre en place. Donc on est face à un espace public qui est vraiment les deux visages. Donc à la fois quelque chose qui est très vulnérable et comme cible, et à la fois qui est le lieu pour les citoyens de s'approprier, de manifester, de montrer leur détermination, de ne pas céder ce lieu. Donc, justement, je pense qu'on est au cœur de ce sujet. Et quand on dit que les mouvements de Maïdan, c'est déjà un arc-en-ciel qui nous réunit à l'Est comme à l'Ouest, ce n'est pas une différence entre les pays démocratiques de l'Occident d'un côté, les pays disons, asiatique et autoritaire de l'autre, il y a quelque chose de commun. Peut-être il faut remonter, d'ailleurs, je regrette qu'on n'a pas un collègue de la Chine pour nous parler aussi de Tiananmen. Il faut rendre hommage aussi à Tiananmen, qu'on n'a pas suffisamment compris comme un mouvement de la place publique, parce qu'au fond, à la fois, cette protestation, comme à la place Tahrir, à Gezi, à Maïdan, à Kiev, qui était un mouvement des jeunes, de citoyens, et à la fois la répression qui a suivi, aujourd'hui, on voit que les deux peuvent aller ensemble, et les mouvements terroristes à Beyrouth, plus récemment, à Ankara, avant aussi, c'est des manières dont l'espace public disparaît, les citoyens ne peuvent plus sortir et s'approprier leur vie de citoyens. Donc, pour venir à des traits, effectivement, très vite, il y a des traits qui sont communs dans ces mouvements, et je pense qu'on aura beaucoup à apprendre des uns et des autres, que tu me demandes, learning process, et même se familiariser avec les contextes des autres pays, donc élargir cet espace public encore plus, qu'on connaît dans des contextes particuliers que chacun de vous, et apprendre le cas spécifique de Kiev, de Gezi, donc comment on peut échanger entre les gens qui viennent, qui sont spécialisés de Tunisie et avec le Japon. D'ailleurs, les Japonais se sont inspirés de la Tunisie et de Tahrir. Donc, je pense que cette horizontalité, cette transversalité, c'est important. L'expression artistique performative, on va revenir. On voit combien plus on va vers une configuration du politique dans l'espace public, plus l'art devient important, y compris à la République, mais aussi dans tous ces mouvements de protestation, l'expression donc artistique sur la place, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, ensuite aussi après la répression, le mouvement continue à donner lieu à un répertoire très artistique. Et là, peut-être encore pour nos réflexions, le mouvement, la notion même du mouvement ne capte pas ces protestations, parce que le mouvement présuppose que ça continue, il y a un mouvement continuel. Tandis qu'il y a un instantané, il y a quelque chose qui se passe comme un happening sous l'espace public, sous la place publique, mais les conséquences continuent différemment. Ce n'est pas comme un parti politique, ce n'est pas comme un mouvement, il n'y a pas une chronologie qu'on peut attendre comme dans le cas de mouvement. L'éphémère, ce que tu disais, c'est l'éphémère. Donc, comme vous l'avez dit, nous faisons partie du monde que nous étudions et nous avons donné l'importance en organisant ce colloque avec Yves et Nadia d'inviter des gens qui sont à la fois investis, qui étaient des activistes, des artistes et des analystes, sans distinguer justement les deux. Et on a entendu ce matin beaucoup de gens qui sont à la fois déjà des sociologues, des philosophes, des artistes, mais aussi des activistes aujourd'hui. Et langage commun, effectivement, comment on peut arriver à un langage commun au bout de deux jours, c'est-à-dire quelque chose qu'on ajuste nos expériences des uns et des autres. Donc, juste avant de finir, je dirais, c'est aussi, comme on dit, comme un motto à l'école, on désenclave les aires culturelles, c'est-à-dire on ne fait pas toujours la Tunisie, c'est à part, la Turquie, c'est à part, mais on pense aujourd'hui l'Occident et les autres parties du monde ensemble. Et aussi l'interdisciplinarité, je pense que ce projet ne peut pas être fait par un seul chercheur. Si on a créé ce groupe d'études et on vous a invité, ça demande vraiment un travail collectif, parce qu'on ne connaît pas toutes ces parties du monde et on a besoin des disciplines différentes, politologues, politiste, historien, sociologue, psychanalyste, je tiens, parce que c'est très important de comprendre le nouveau sujet, cette nouvelle personne, le côté privé, personnel, intime dans l'espace public, qui est très différent des mouvements identitaires, collectifs, etc. Donc, ceci passe notre colloque dans le cadre de le 40e anniversaire de l'école, donc ça, c'est encore plus important. Donc, je remercie l'école, TEPSIS, le CESPRA, mes amis, et surtout vous, d'être venus, et je prends ça comme un signe de solidarité de la place publique.
Je complète la liste des organismes à remercier, puisque le CERSEC, le Centre d'études du monde russe, Centre européen, j'oublie quelque chose, et le CRH, le Centre de recherche historique, ont aussi beaucoup contribué à l'organisation de ce colloque. Et je passe la parole à Nadia Marzouki, voilà, qui est une chercheuse du CESPRA, justement, et qui a organisé le colloque.
Merci. Je serai brève. Je voulais juste remercier tous les intervenants et les participants à ce colloque. En effet, comme l'a dit Niloufer, on inaugure un format un peu inédit en mélangeant les chercheurs et les activistes et ce qu'on appelait les acteurs réflexifs, et dans une volonté de les faire discuter entre eux, pas d'avoir les chercheurs qui sont là pour écouter, diagnostiquer le propos des acteurs. Donc je pense que ce sera une expérience originale et réussie. Pour ceux qui sont là et qui ont participé au mouvement, d'avance, nous vous remercions parce que nous vous demandons un exercice qui est difficile. Parce que, comme je le mentionnais ce matin, on est en 2015 et plus en 2011 ou 2012, et qu'on est dans beaucoup de pays passé du temps du ressenti de l'euphorie au temps du désespoir, du sentiment de la dislocation de ces mouvements. Et là, on vous demande peut-être un peu cruellement de revenir sur vos émotions et votre expérience de quand on y croyait. Mais on est là aussi pour, comme on a déjà commencé à en parler ce matin, à voir les manières dont on peut continuer à y croire, à ces mouvements. Mais c'est un exercice difficile, donc on vous remercie déjà pour ça. Et très brièvement, si on peut un peu résumer les objectifs de ce colloque, c'est, je pense, de voir déjà comment on peut parler de ces mouvements, comment vous pouvez parler de votre expérience, parler en votre propre nom, en essayant parfois de parler au nom des activistes avec lesquels vous avez travaillé, ce qui n'est pas un exercice facile, puisqu'il s'agit de pouvoir faire émerger des sens multiples sans clôturer le sens de ce mouvement. Comme le disait Richard, un des problèmes, un des défis pour nous aujourd'hui, c'est d'arriver à produire des nouveaux concepts, des nouvelles méthodes, et donc d'arriver à parler de l'originalité de ces mouvements sans en clôturer le sens. Donc comment en parler, comment les comparer, puisque voilà, les mouvements qui visaient à détruire des dictatures et les mouvements qui avaient lieu dans des démocraties ne sont pas forcément entièrement homogènes, mais il y a quand même quelque chose de commun, donc c'est ça qu'on essaiera de saisir. Et enfin, comment les évaluer? Donc voilà, comment pouvoir parler de ces mouvements en arrivant peut-être à s'émanciper des catégorisations en termes d'échecs, de succès? Comment arriver à évaluer ce qui s'est passé sur la place tout en prenant en compte, enfin sur les places publiques, tout en prenant en compte la réalité de ce qui se passe aussi sur les contre-places, les zones d'ombre des places les ruelles, les appartements, où il y a d'autres, des personnes qui ne sont pas incluses dans ces places publiques et qui produisent des formes culturelles, si on peut appeler ça comme ça, ou politiques, plus ou moins dangereuses ou plus ou moins monstrueuses, comme on a pu le voir vendredi dernier. Donc voilà, on a beaucoup de travail, on verra ce qu'on arrive à faire, mais merci beaucoup.
Donc, je suis Yves Cohen, je suis aussi directeur d'études à l'école de l'étude. Et je pense que, là aussi, je vais prendre la suite des précédents en réfléchissant sur le moment dans lequel nous sommes et le sens, justement, on parle beaucoup de sens, c'est-à-dire le sens que ça prend de faire ce colloque aujourd'hui. Parce qu'il semble que, et Richard l'a évoqué évidemment, la violence des contre-coups, qui est une violence contre des événements de rébellion, de protestation, etc., de dissidence. Cette violence, elle est à la mesure de la force, justement, de ces mouvements de place, et pas seulement de ces mouvements de place, de ces reconquêtes démocratiques. Et je pense qu'effectivement, il y a une unité forte de moments historiques que nous vivons, que nous essayons de capter dans ce colloque des cinq dernières années, et de ce qui vient de se passer. Je remercie infiniment l'interprétation que fait Richard, qui on parlait d'inventer des nouveaux concepts, mais on n'est pas obligé d'inventer des nouveaux concepts, hein, il n'y a aucune obligation à ça. Mais on peut resignifier, redonner du sens à des concepts, ce que vient de faire Richard à propos du génocide, c'est-à-dire le génocide peut être à notre porte, effectivement. au bout des armes de gens qui parcourent des rues. La force de ces mouvements. Il y a une dizaine de jours, le premier ministre de la Roumanie a démissionné devant la rue. Il n'a pas pu résister à la rue. Et il a dit « Je peux mener des combats politiques, mais je ne peux pas me confronter au peuple ». Et je pense que là, dans les mouvements de ces dernières années, qui n'ont touché que très marginalement les pays où sont nées la démocratie, où est née la démocratie, les vieux pays de l'Europe occidentale, des États-Unis, c'est l'Europe du Sud, l'Europe orientale et les autres continents. En fin de compte, l'Asie est certes absente, mais c'est la première rencontre que nous faisons sous l'égide de Tepsis, etc. Donc nous élargirons le scope, la gamme des continents. Et donc, ce moment est un moment extrêmement fort parce que quelque chose qui est de l'ordre de ce dont parlait finalement Jean-Jacques Rousseau avant même la Révolution française dans le contrat social. Il parlait de l'acte par lequel un peuple devient un peuple. C'est-à-dire qu'un peuple ne préexiste pas à des actes comme précisément ceux-là dont nous parlons. Et c'est un enjeu aujourd'hui qui est très important. Je suis historien, donc je ne vais pas... Un historien qui, comme il faut, évidemment, est présent au présent, c'est-à-dire pose à l'histoire des questions du présent. Mais l'intérêt, c'est de voir en quoi ces mouvements sont des critiques en acte de l'histoire passée et de l'histoire prolongée, et une relance, finalement, de l'histoire. C'est ça qu'il faut, de façon extrêmement modeste, essayer de comprendre. Et c'est le cas, par exemple, justement, du siècle passé, qui était un siècle hiérarchique, et non seulement qui était un siècle hiérarchique de culture du maître, du chef, du meneur, du leader, etc., aussi bien dans les démocraties que dans les totalitarismes. Hein, le culte du chef n'était pas seulement un fait du totalitarisme. Et c'est intéressant de voir que les mouvements maintenant, mais bien sûr, on peut dire que ça a commencé en 68, mais en 68, il y avait encore l'horizon révolutionnaire. D'une révolution socialiste qui soit meilleure que toutes celles qui ont été faites précédemment. Ces mouvements n'ont plus cet horizon. Ces mouvements interpellent, renouvellent les formes démocratiques sur les places, dans les rues, dans la durée des places, et relancent un questionnement qui est celui qui est aussi un questionnement pour les sciences sociales. Les sciences sociales se sont formées dans l'ancien siècle du culte de la hiérarchie. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus, en tant que chercheurs en sciences sociales, nous développer dans un culte comme ça de la hiérarchie. Et c'est ce que nous dit le social. Et nous devons être capables de l'entendre. Et alors, c'est là aussi qu'il y a quelque chose qui est extraordinairement fort dans ces choses-là. Et que le moment, d'ailleurs, le fait qu'effectivement, ce colloque est à la fin du 40e anniversaire de l'école des hautes études. Il prend place dans une mesure donc lancée par l'INUFER sous la direction éclairée de Richard, qui est financée dans le cadre du 70e anniversaire de la 6e section de l'école pratique des hautes études, qui va se transformer, donc 30 ans plus tard, en école des hautes études en sciences sociales. Donc il y a plein d'anniversaires à un moment, justement, où les sciences sociales sont interpellées. Et je suis j'ai une grande gratitude par rapport pour Pierre Cyril, qui vient de montrer que l'école, et de parler comme Richard, comment l'école est sensible à ce moment. À ce moment où, finalement, les mouvements sociaux, les personnes ne peuvent plus être considérées simplement comme des objets. Mais ces mouvements sociaux auxquels nous assistons, débarrassés ou se luttant contre ce qu'a été le siècle hiérarchique où les foules, les masses devaient accepter un chef, eh bien, ces mouvements proposent, ces mouvements pensent, ces mouvements réfléchissent. de la voix de gens qui sont des chercheurs ou des sociologues, mais plutôt aussi de la voix d'activistes, d'artistes, de journalistes, de gens présents sur la place qui constituent, forment le social, renouvellent le social, etc. Et du coup, nous ne sommes pas dans une position de surplomb. Nous avons des partenaires. Et je pense beaucoup que la pensée de la place, les intellectuels de la place, les âmes de la place, comme je disais à propos de Vladimir ici présent, ce sont des partenaires de la pensée. Et cette fabrication de concepts, peut-être que c'est avec eux que nous la ferons, et non pas dans nos cabinets, dont nous espérons qu'ils soient un jour de nouveau au boulevard Raspail. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je suis très content de ce début de colloque, de ce début de conversation. Je pense que ça va être à la hauteur des espoirs que nos amis et collègues qui sont venus de loin ont eu en venant ici, et je l'espère bien. Et donc, j'espère que nous allons pouvoir être à la hauteur de ce moment dans lequel nous sommes.